Je connus Guillaume Apollinaire aux environs de 1903. La mère de Guillaume demeurait à Chatou, en face de chez mon père. La maison appartenait à la catégorie des villas somptueuses. Murs et grilles, pelouses et grands arbres contribuaient à donner à cette demeure un air cossu, douillet et prétentieux. Les milieux que fréquentait Apollinaire étaient bizarres. Il était de bon ton de paraître anormal, étrange. On fumait l'opium, on mangeait du haschich, on absorbait de l'alcool, de l'éther. Peintres, poètes et littérateurs étaient pauvres, et il n'était pas question de gros prix ni de fort tirage. En revanche, il était indispensable de se montrer férocement spirituel, même si cet esprit devait ridiculiser ou tuer ce qu'il y a de meilleur dans la nature humaine. On jonglait avec le paradoxe, on répudiait le sens commun. Guillaume Apollinaire était un homme fin, un intellectuel intelligent. Il y avait en lui un fond de naïveté, contre laquelle il se prémunissait en se donnant l'attitude d'un sceptique. Il était attiré, troublé par l'étrange. Guillaume venait le samedi soir pour passer le dimanche chez sa mère. Il apportait, dissimulé dans un paquet élégamment ficelé, son linge sale qu'on lavait à la maison. Il économisait ainsi le prix du blanchissage. Il était de taille moyenne, un peu rondouillard, mais de très fin. Et ses yeux intelligents semblaient inspecter sans cesse les choses et les êtres. Quand je fis sa connaissance, il avait environ 25 ans. Il vivait de petits travaux littéraires, de traductions et de besognes mal rétribuées qui lui permettaient tout juste de ne pas crever de faim et ne lui laissaient jamais un sou en poche. Sa mère lui reprochait son inaptitude à gagner de l'argent. Il encaissait rebuffades et engueulades avec dignité et ne s'en plaignait pas plus que de son habituelle impécuniosité. Il vivait dans un manque d'argent continuel. Cependant, je ne l'ai jamais vu se plaindre. Il était toujours de bonne humeur. Il riait et s'amusait de tout. Jonglant avec les paradoxes, les fantaisies de l'esprit lui faisaient oublier les difficultés matérielles de la vie. Seul l'inquiétaient les formes nouvelles de la pensée. Il n'avait à cette époque aucun souci de l'avenir. Chaque dimanche, il venait déjeuner chez moi. Je le voyais arriver à pas lents, tenant à la main une feuille imprimée qu'il lisait tout en marchant. Nick Carter faisait ses délices, et il n'en ratait jamais un numéro. Quand je fis sa connaissance, il revenait d'Allemagne, où il avait été précepteur dans une famille. Un jour, à la fin d'un repas, je lui tendis un superbe et succulent camembert. Il fit le geste de le repousser. « J'ai horreur du camembert, je ne peux plus en voir un », me dit-il en riant. Le jour de mon arrivée en Allemagne, quand j'allais rejoindre mon poste de précepteur, il ne me restait, après avoir payé le prix de mon voyage, que quelques sous tout à fait insuffisants pour me permettre d'entrer dans une brasserie et de déguster une choucroute en buvant un demi. J'achetais donc du pain et un camembert que je dévorais en entier. La nuit, je fus affreusement malade. Alors, tu comprends, le camembert... Cependant, Guillaume avait un solide appétit. C'était même un gros mangeur. Un matin, nous étions venus à Paris... Il voulut me rendre mes invitations en m'offrant à déjeuner au Chartier de Montmartre. Tout en racontant des histoires, je commandais et absorbais successivement plusieurs bœufs gros sel, 2 côtelettes de mouton, 4 tomates farcies. Tout à coup, le visage de Guillaume me parut empreint d'inquiétude. Le montant de l'addition lui donnait de graves appréhensions et lui coupait l'appétit. Il se demandait comment il allait faire. J'avais compris et le rassurais. « T'en fais pas, Guillaume, c'est moi qui paie. Mange. Mangeons !» Sa figure s'éclaira d'un bon sourire et nous redemandâmes des bœufs gros sel, des entremets et des desserts. Guillaume aimait la marche, les promenades sans but, au cours desquelles les moindres sujets lui étaient autant de motifs à lâcher la bride à son imagination, à son lyrisme, et durant des après-midi, nous errions à l'aventure sur les bords de la Seine, de Chatou à Bougival, entrant dans des guinguettes, au bal des canotiers ou à la grenouillère. C'était un charmant compagnon, aimant boire, manger, faire l'amour... adorant la vie pour la vie, en dépit du peu de facilité que pouvait offrir à un poète une société organisée en vue de luttes uniquement prosaïques. C'est presque un truisme que de dire que Guillaume Apollinaire était poète. Poète, Apollinaire l'était comme le ciel de la Méditerranée est bleu. Poète, il l'était essentiellement. Mais de poésie, il n'en parlait jamais, seulement il la faisait entrer partout et dans tout. Ses poèmes étaient, comme son esprit, empreints d'une originalité où le bizarre et l'inattendu frôlaient parfois un réalisme drôlatique. Il y a des fleurs des champs, des bois, il y a aussi des fleurs de serre aux formes et aux couleurs étranges, des fleurs aux couleurs chimiques et vénéneuses, comme celles qui éclosent subitement quand on laisse tomber, dans un verre d'eau, une certaine poudre japonaise. Guillaume transposait la vie sur un plan personnel, original, celui qui convenait à la sensibilité du poète qu'il était exclusivement, car les autres arts ne l'inspiraient guère. Son oreille était rebelle à la musique, et il riait lui-même de son inaptitude à distinguer la Marseillaise d'un clair de lune. Il ne concevait la peinture que comme une manifestation de l'esprit littéraire, et ce, depuis la plus simple imagerie jusqu'aux divagations cubistes et surréalistes. Ce qui faisait sa force, c'était son adresse dans la fantaisie, une adresse d'équilibriste ou de professeur de Charleston, inventeur de danse que seul il pouvait danser. Encouragé, flatté par tous ceux qui espéraient, à la faveur d'une époque troublée, se tailler une petite part de gloire et de bénéfices, il devint le pilier qui soutenait tout l'édifice cubiste. Arrivé à ce stade, il ne savait plus très bien si tout cela l'amusait encore. Peut-être simplement du haut de cette tour de Babel qui était devenue l'art français, était-il pris de vertige. La veille de la déclaration de guerre, le 2 août 1914, j'étais avec Guillaume. Nous avions déjeuné ensemble. « Cela durera 3 ans, me dit-il. » Et le mieux, c'est d'être soldat. Pauvre Apollinaire. Le jour de la déclaration de la guerre, il n'était possesseur que de quelques francs. Il voyait l'avenir avec angoisse. Qu'allait-il advenir de ses traductions, de ses petits travaux littéraires? Les éditeurs allaient fermer boutique. En matière d'art, comme dans la vie, Guillaume Apollinaire était, ainsi que Picasso, toujours assis entre deux selles. Si l'un divaguait du cubisme à Ingres, l'autre errait dans le domaine du classicisme et de la fantaisie excentrique. Durant toutes ces dernières semaines où j'avais vu Guillaume presque quotidiennement, j'avais perçu, malgré le soin extrême qu'il mettait toujours à dissimuler, son angoisse de ne pouvoir trouver l'âme matérielle avec ses poèmes, ses épigrammes, ses épitaphes. Au fond de lui-même, il savait fort bien qu'on ne danse pas indéfiniment sur un fil de fer sans se casser la gueule, et que ce n'était pas la poésie surréaliste qui pouvait nourrir son homme. Car, sous ses allures de bohème, Guillaume Apollinaire aimait ses aises, la bonne chère, son confort, son intérieur, ses bibelots, et, chose paradoxale, il était dans sa vie privée fort ordonné. S'il avait vécu, je ne doute pas que Guillaume fût devenu académicien tout comme Paul Valéry. Apollinaire mourut le 11 novembre 1918, le jour de l'armistice. Dans la rue, la foule, délirante de joie, hurlait, chantait et criait « Ah bah Guillaume !» La naïveté de Guillaume, son ignorance des choses de la vie ordinaire, son inaptitude à tout travail manuel, était quelque chose de stupéfiant. Apollinaire était incapable de planter un clou, de scier un bout de bois. Un jour, je l'ai vu regarder un maçon qui montait un mur de briques. Il s'extasiait sur la façon dont l'homme posait le petit tas de mortier, mettait la brique en place, la tapotait du manche de sa truelle pour la mettre d'aplomb. « Regarde, me dit-il, c'est étonnant !» Il me fit le récit de sa blessure à la tête. Il avait tendu une toile de tente et, se croyant à l'abri, il se tenait pendant un bombardement couché sous une illusoire cuirasse. Quelques éclats de shrapnel ou d'obus éclataient trop loin, tombaient du ciel sur la toile sans la transpercer. J'étais convaincu, me dit-il en riant, que cette toile qui ondulait au vent y ferait une protection à laquelle personne n'avait encore pensé. Cette illusion de poète valut à Apollinaire d'être trépané. Guillaume Apollinaire, sous le tonnerre des explosions, et tandis que le canon gronde, couché sous un morceau de toile qu'agite le vent, comment ne pas retrouver dans cette vision la poésie naïve et charmante du poète assassiné ?